Il est passé d'une vie à l'autre, d'un univers à l'autre. C'est la vie de l'étonnant monsieur Cabris, marin bordelais devenu sauvage tatoué, raconté par l'historien Christophe Granger, membre du Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle, rattaché à Paris 1, enseignant à Paris-Saclay, collaborateur du comité de la rédaction XXe siècle, la revue XXe siècle, parue en octobre chez Anna Moza, Joseph Cabris, où Les possibilités d'une vie vient d'obtenir le prix Femina, félicitations, prix qui a récompensé cette étrange biographie d'un inconnu. Bonjour à vous, Christophe Granger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez signé une tribune dans Libération le mois dernier pour une fabrique libre du savoir. Vous êtes enseignant à Paris-Saclay. L'enseignement supérieur, la recherche en ce moment, vous semble-t-il menacé par des propos qui ont pu être tenus, mais plus globalement par l'ambiance actuelle?
Oui, complètement. On va commencer par les sujets qui fâchent, hein, vraiment. Non, c'est très compliqué. C'est une situation assez épouvantable à la fois du côté des étudiants, qu'on ne voit plus et qu'on a un peu abandonné à leur sort, il faut bien le dire, en espérant que ça tienne. Bon. Et puis du côté de l'enseignement, ça va pas beaucoup mieux dans la mesure où on se retrouve privé justement de ce contact avec les étudiants et avec les collègues. En réalité, on enseigne chez soi derrière un écran. Et je pense que ce qui a rajouté effectivement la goutte d'eau qui fait déborder tout ça, ça a été aussi la loi de programmation de la recherche qui est qui suit son cours puisque des morceaux sont enlevés, notamment la pénalisation du fait pour les étudiants d'occuper leurs universités. Mais si vous mettez tout ça bout à bout et ce qui s'annonce à l'avenir, c'est-à-dire que le poste tel que j'occupe moi aujourd'hui est voué de toute façon à disparaître un jour ou l'autre. C'est-à-dire on va miser sur des formes d'enseignement qui sont et de recherche qui sont contractualisées et non plus sur le mode du fonctionnariat tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Donc tout ça mis bout à bout et a fait une première partie d'année absolument épouvantable.
Ouais. Oui, on entend aussi beaucoup la question des vacataires qui se pose depuis quelques mois. 2020 aura été une année quand même particulièrement difficile, vous l'évoquez, pour l'université, pour les enseignants et pour les étudiants qui devraient reprendre partiellement en janvier. Il est temps, vous pensez que vous allez retrouver dans vos amphis beaucoup de décrocheurs aussi?
Oui, une partie des étudiants ont disparu. Pas, alors ça dépend des disciplines et ça dépend du moment de la rentrée, c'est-à-dire que plus on a commencé tôt et plus on a pu leur faire cours suffisamment longtemps. Mais c'est très difficile pour eux, ne serait-ce que parce que le lien pédagogique, mais même pas classique, le lien pédagogique naturel qui devrait fonctionner entre un enseignant et la capacité de transmettre et les étudiants qui apprennent est complètement rompu. Donc on bricole avec ce qu'on peut. Et on découvre en fin de semestre que ça fonctionne pas très bien, hein, que c'est difficile pour eux, très difficile pour eux. Et la question des vacataires. Et si on la met à plat, mais c'est pareil, il faudra en parler très longtemps. Et bon, mais si on la met à plat, moi j'ai été vacataire pendant longtemps. J'ai les statuts précaires, je les ai écumés, j'ai écrit le bouquin en connaissance de cause. Enfin voilà, c'est des choses. Les trajectoires de vie sont très compliquées. Mais ce qu'on oublie, c'est que faire vivre des gens avec 30 euros par heure de cours ou je sais pas moi payer 3 000 euros pour le semestre, mais dans 6 mois, c'est pas seulement inhumain, c'est aussi une perte gigantesque pour ce qu'on fait à l'université, pour la production du savoir, pour la transmission du savoir aux étudiants. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent pas s'investir, qui font leur boulot comme ils peuvent, mais pas dans de bonnes conditions. Et on oublie tout le temps de poser la question, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça vaut des enseignements comme ça? Est-ce que c'est encore de l'enseignement public quand on demande à des enseignants de se mettre auto-entrepreneurs pour pouvoir sous-traiter? Qu'est-ce que ça vaut encore ce qu'on fait? Voilà. Et c'est tout ça mis bout à bout. Enfin voilà, je veux pas paraître pessimiste d'un seul coup, mais il y a de quoi l'être, franchement. Et ça explique une bonne partie de la colère de beaucoup de collègues, moi le premier, hein. C'est quand même des choses sur lesquelles on a accepté beaucoup. Et là, il n'y a pas d'issue tenable, en
réalité. Ce serait quoi, en ce moment, un geste fort en direction de l'enseignement supérieur, de la recherche?
En étant rêveur, parce que voilà, ça fait des années que ça dure et que c'est abominable. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont enchaînées les unes après les autres. Je pense la suppression pure et simple, mais je suis pas juriste, de la LPR, hein, qui me semble être tenir tout le reste, parce qu'elle est pas que symbolique. Là, on a enlevé un morceau sur le fait de dire des étudiants qui vont se réunir. Je sais pas si on a bien pris la mesure de ça. Des étudiants qui vont se réunir dans une université pour manifester leur mécontentement pouvaient être, alors là, le Conseil constitutionnel s'est débarrassé de cette mesure-là, mais pouvaient être pénalisés. Tout en fait est relié, et il y a une forme de fonctionnement de l'université qui ne va plus du tout, et qui me semble être j'allais dire cristallisée dans cette fameuse loi. Je dis fameuse parce qu'on est dans la rue depuis le mois de mars quand même. Enfin, et elle passe au moment où on est tous confinés, au moment où l'université est dans une position très difficile, où les enseignants sont dans une position très difficile, et la loi est passée, j'allais dire comme une lettre à la poste, ce qui est bon. Ce qui était attendu. Mais voilà, je pense que là, une mesure forte, ce sera ça, oui.
Effectivement. Ce livre, cette enquête historique, sociologique, cette biographie si singulière qu'on va raconter, celle de Joseph Cabrice, c'est aussi ça que le système français vous a permis de réaliser jusqu'ici. Alors, il y a des à côté. Hein, on imagine que ça a mangé d'autres moments de votre vie. Vous le dites d'ailleurs, hein, il a fallu 15 ans de ma vie pour venir à bout de la sienne, celle de Joseph Cabrice.
Oui. Mais je dirais que ça, il faut s'habituer à ça aussi quand on parle à un public plus large. C'est des choses qui, dans l'université telle qu'on nous la prépare, n'est plus possible. C'est-à-dire que d'abord, c'est une recherche au très long cours. Quand on passe 15 ans, c'est pas un financement sur 3 ans ou sur un an et demi. Et puis, c'est pas une recherche programmée. C'est-à-dire, c'est pas une recherche dont j'aurais pu faire valoir auprès des instances qui décident ce que sont les recherches prioritaires. J'aurais jamais pu dire, bah tiens, faire une biographie d'un type qui parcourt le monde, ça va être une recherche prioritaire et d'avenir. Pas du tout. Donc, du coup, c'est des choses qui sont en marge. Alors, ça a des points positifs d'être en marge. Moi, je l'ai écrit, une bonne partie du bouquin a été écrite à un moment où ma propre vie ressemblait à ça, c'est-à-dire un peu en vrac et en chantier, parce que justement, j'avais pas de poste. Et qu'il faut bien vivre. Donc, on change de vie, et ainsi de suite. Mais je sais très bien qu'aujourd'hui, ce type d'ouvrage-là n'a pas de... C'est pas que ça n'a plus de place, c'est que ça n'a plus de sens, en réalité. Ça n'a plus de sens de pas... Je suis pas en train de décourager les gens, mais de partir dans des choses comme ça, et de produire ce type de savoir, c'est devenu très compliqué, très marginal.
D'ailleurs, vous ne vous êtes pas découragé vous-même, parce qu'il n'est pas sûr qu'au départ, quand l'idée est venue, vous ayez, vous, acté, comme des hautes instances auraient pu le faire, que ça allait être le projet, un projet de 15 ans de votre vie, et qu'il allait ressembler à ce qu'il ressemble aujourd'hui.
Non, pas du tout.
Ouais. C'est un projet qui s'est construit au fil de vos lectures, de vos recherches, de vos trouvailles, et de votre écriture aussi. Hein. Cabrice, vous racontez son périple en plusieurs étapes, surnommé le prince des sauvages. Ce marin corsaire français du 19e a beaucoup voyagé. Il a vécu des années dans une tribu des îles Marquises à Nuku'iba, si je prononce bien. Tatoué des pieds à la tête, il va mourir exhibé comme une bête de foire en 1822 en France. Là, j'ai beaucoup résumé, mais voilà, juste pour qu'on ait un peu une photographie de ce personnage, de cet anti-héros hein, que vous avez, vous, adopté. Il a laissé derrière lui de nombreuses notes, des impressions. Ce sera, on l'imagine peut-être, votre matière première pour ce livre Enquête. Quand est-ce que le biographe Granger a trouvé son sujet?
Bonne question. En réalité, un peu par hasard, on avait monté un groupe de recherche sur le corps avec des jeunes doctorants il y a 15 ans, le samedi matin, on se réunissait. Et puis en travaillant, moi je m'étais dit que j'aimerais bien travailler sur le tatouage qui réunissait un peu nos envies à ce moment-là. Et en lisant un certain nombre de choses sur le tatouage, j'étais tombé dans un bouquin du docteur Berchon sur les origines du tatouage. Il avait fait un bouquin, une somme, et à l'intérieur, il y a une page et demie, où il racontait, sur le mode d'une anecdote, hein, comme on peut l'imaginer, le destin formidable de cet homme qui était un peu l'incarnation de son matériau. Et il était tatoué, et il vivait du fait d'être tatoué. Et donc je l'ai retrouvé à plusieurs reprises, notamment dans des dictionnaires biographiques du 19e, c'était très en vogue, un peu les ancêtres de nos fiches Wikipédia, là, bon, ça se faisait. Et de son vivant, il était très connu, et un peu après sa mort aussi. Et donc, à force de retomber sur lui, je m'étais dit, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement... alors évidemment, c'est son corps et le fait que son corps soit tatoué, ça, clairement. Mais c'était d'arriver à rentrer dans sa vie et d'arriver à la comprendre, non pas sur le mode d'une note de bas de page dans une gigantesque histoire du tatouage, mais au contraire d'essayer de comprendre d'abord le tatouage, qu'est-ce que ça voulait dire dans sa propre vie à lui. C'était pas le tatouage en général, c'était des tatouages qu'il avait acquis à un moment particulier de sa vie pour s'intégrer à une société qui n'était pas la sienne, et ainsi de suite. Et puis ça avait pris une signification différente quand il change de société. Donc petit à petit, essayer de comprendre... Comment sa vie s'était faite, c'était ça qui m'intéressait. C'est-à-dire comment on s'y prend concrètement quand on est un homme, il arrive plutôt jeune aux îles Marquises, quand on est un homme plutôt jeune et qu'on a été socialisé dans un monde particulier pour changer de monde finalement. Et ce qui est assez génial avec son parcours à lui, c'est qu'il change plusieurs fois de monde. Et donc ce qu'on peut étudier, et c'était vraiment ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était, mais une vie au fond, la mienne, la vôtre, la sienne en l'occurrence, comment ça se construit? Parce qu'on a tout un tas de savoir, moi je suis historien à la base, j'en ai fait des histoires ou des bouquins dans lesquels on traite de vie. Il y a des centaines, des milliers de vies dans les bouquins qu'on fait ou dans les bouquins que j'ai fait moi. Et au fond, à un moment donné, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'arrivais à comprendre de leur vie finalement? Parce qu'on peuple nos bouquins de ça, mais on sait pas dans le temps, on les prend à un moment particulier, ces acteurs-là, et on sait pas dans le temps comment est-ce qu'ils ont vécu, d'où ils viennent, est-ce que ce qu'on décrit d'eux est important dans toute leur vie ou au moment particulier où on les considère. Et donc là, l'idée, c'était d'en prendre un seul et d'aller au fond de l'exercice, ce que j'appelle biographie sociologique, parce que ce qui m'intéressait, c'était un individu socialisé par des mondes différents et comment il passe de l'un à l'autre. Comment est-ce qu'il, non pas il saute d'un univers à un autre, mais comment est-ce qu'il trimballe des morceaux de son passé pour arriver à avancer. Voilà ce qui m'avait intéressé. Et donc du coup, Cabri était un merveilleux, j'allais dire outil, c'est pas le cas parce que je me suis pris de passion aussi pour le personnage, mais c'était un merveilleux personnage pour arriver à me poser toutes ces questions.
Et cela suppose de recomposer d'abord les espaces sociaux hein, de ces différentes existences pour expliquer, comme vous l'écrivez Christophe Granger, la vie de ce perpétuel transfuge de classe, de race et même de monde. Il faut accepter de la saisir dans le temps, car chaque univers où il est pris, chaque situation où il est placé, chaque rencontre qu'il noue, en contiennent déjà d'autres. Alors comment avez-vous procédé déjà pour qu'on comprenne, qu'on arrive à percevoir, à cerner ce qui explique que de son vivant, il était si connu et que l'histoire n'en a rien gardé. On le disait, c'est la biographie, c'est une biographie d'un genre très particulier. Elle est encore plus quand elle s'attache à raconter la vie d'un inconnu. Est-ce que vous avez travaillé, procédé comme Alain Corbin, l'auteur du Monde retrouvé de Louis-François Pinago? L'idée, je vous rappelle, de ce livre qui est devenu un classique, est née pour Alain Corbin au cimetière quand des machines, des bulldozers se sont mis à retourner la terre, comme souvent dans les petits cimetières de campagne, pour faire de la place pour les nouveaux morts. Il voit tout à coup un nom sur une stèle et il décide de retracer la vie de cet inconnu, mort un siècle plus tôt au 19e siècle, le faisant ressusciter, en racontant donc le destin de cet homme ordinaire, Louis-François Pinago, le sabotier de la Basse-Fresne. Il nous raconte, Alain Corbin, pourquoi et comment.
Quand j'arrive en 95, je vois des machines qui sont en train de prendre ces tombes. Il paraît que ça s'appelle une réduction. C'est-à-dire qu'on prend les os, on en prend quelques-uns, on met dans une petite boîte, je sais pas trop ce que c'est. Alors, il y avait la moitié du cimetière comme ça, et ça m'a donné l'idée de dire, mais je vais sauver, tous ceux dont m'avait parlé la grand-mère sont fichus, si vous voulez, sont disparus. Je vais en sauver Bourlorn, je vais en sauver un qui n'a plus de tombe, etc. Mais je vais voir. Et donc, j'ai été aux archives départementales, j'ai choisi une commune, pas loin. J'ai choisi un individu qui avait vécu assez longtemps du 19e. Et je me suis dit, je vais le ressusciter dans toute la mesure du possible. Voilà. Et bon, c'est pas facile parce qu'il était analphabète. En plus, il était indigent. C'était vraiment le bas du bas, quoi, de la société. C'était le numéro un, si vous voulez, par le bas. Et je me suis dit, je vais essayer quand même de ressusciter ce type.
Alors, deux questions à partir de ces mots d'Alain Corbin pour vous, Christophe Granger. Un, d'abord, avez-vous vu, souhaitiez-vous, comme Alain Corbin, cette résurrection, c'est-à-dire faire revivre ou sauver la vie de Joseph Cabrice? La sauver de l'oubli.
Mais en fait, d'abord, je commence par dire que ça me fait plaisir d'entendre Corbin parce que j'adore Alain Corbin comme historien et le bouquin de Pinago était. Moi, je commençais à faire mes études d'histoire quand il l'a sorti et enfin voilà. Mais alors pour faire une réponse.
Alors on peut commencer par la deuxième question qui était est-ce que ce travail de Corbin, qui est quand même devenu un grand classique, vous a inspiré vous? Est-ce que vous avez suivi un peu le même type de méthode?
En fait, les deux questions sont reliées, mais l'idée c'est que moi, j'ai pas cherché à prendre un inconnu qu'il faudrait sauver. Des méfaits de la disparition du temps, d'abord parce que Cabri était connu, lui il a été non pas dans le bas comme dit Corbin, l'infini d'en bas, mais il a été en haut, c'est-à-dire il rencontre le tsar, il est dans les salons à un moment de sa vie, avant de dégringoler complètement dans les foires et de mourir malheureux. Mais donc il a connu aussi des espaces de célébrité, des moments de célébrité qui font que je peux pas dire que c'était un inconnu, et en plus il était très connu à l'époque de son vivant. Et d'autre part, non, j'ai pas essayé de faire ce que Corbin avait fait. C'est-à-dire, c'était tentant, et évidemment, je pense qu'on est d'une génération d'historiens quarantenaires qui, quand on tombe sur une biographie, on se dit, le personnage, bah tiens, on pense à Corbin tout de suite, et à Pinago. Non, en fait, j'ai fait exactement l'inverse de ce qu'il a fait, pas volontairement, mais je me suis posé une question au point de départ qui était, En réalité, il le choisit pas. Il choisit Pinago, parce qu'il est inconnu. Et il nous explique pas ce que ça veut dire être inconnu à l'époque. Il nous explique pas ce que Pinago avait d'intéressant pour son siècle et quelle place on lui a assigné à ce moment-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand on lit Pinago, même avec le recul aujourd'hui, il prend. Alors, on sait rien sur Pinago. Enfin, de lui-même, on ne sait rien, à part une croix sur un registre à un moment donné qui est le moment fabuleux du bouquin. Mais on sait rien. Et ce qu'il fait, c'est recomposer, parce qu'il avait beaucoup de talent et puis beaucoup de bouteilles aussi à ce moment-là, il connaît bien les archives, recomposer à travers des sources du dehors ce qu'a pu être le dedans de Pinago. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il pouvait ressentir, qu'est-ce qu'il pouvait voir, qu'est-ce qu'il pouvait penser. Et je me suis dit qu'en fait, pour Cabris, ça m'intéressait pas du tout. C'est pas du tout ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire pas partir pour chercher le dedans, mais arriver à comprendre comment est-ce qu'il se retrouve dans des univers sociaux qu'il n'invente pas. C'est-à-dire il utilise une langue qu'il n'invente pas, il est tatoué, c'est pas lui qui a inventé les tatouages, et ainsi de suite. On pourrait continuer longtemps. Il se marie, il devient chef de guerre. Bon, il y a des instances sociales qui ont organisé des places qu'il pouvait prendre et il arrive à les négocier d'une façon ou d'une autre. Et en fait, ce que je voulais montrer, c'est que en réalité, toute sa vie est un peu comme nos vies traversées par des déterminations sociales qui pèsent sur nos habitudes, mais qui pèsent aussi sur ce qu'il nous est possible de faire dans la société où on se retrouve. Et donc ce qui était intéressant, c'est que lui, il peut s'appuyer sur la célébrité. C'est-à-dire que c'est pas lui qui décide d'être célèbre, et ça fait un point d'entrée très intéressant. Tiens, il a été, on peut le dire comme ça, sélectionné pour tout un tas de propriétés qu'on trouvait extraordinaires au moment, en Russie d'abord, puis en France quand il reviendra. Le fait que ce soit des propriétés extraordinaires, et le fait qu'il le sache, puisque c'est ce qui lui permet de vivre, nous donne une ressource supplémentaire, à nous historiens, qui est, mais alors donc il s'appuie sur des choses qui sont extérieures à lui, donc la célébrité, qu'est-ce que c'est qu'être célèbre, qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps extraordinaire qui sort du commun, et ainsi de suite, et il en joue, alors il en joue pas consciemment, mais il se retrouve à devoir composer avec ça. Alors que sur Pinago, on sait jamais avec quoi il compose. Le rôle de l'inconnu dans le petit village où il est, on sait pas en quoi ça consiste. En revanche, le rôle de l'homme extraordinaire, qui est construit et qui lui permet de bouffer, concrètement, là on peut arriver à comprendre ce qu'il en fait. Et il raconte sa vie différemment, à des moments différents, qui prouvent bien que, précisément, il joue avec ces instances qui sont composées avant lui.
Et du coup, c'est ces moments de rupture, ces moments de pli, comme vous l'écrivez, que vous avez cherché à identifier et à raconter, pas sa vie à lui, pas l'intégralité de sa vie, de manière linéaire. Vous comparez d'ailleurs votre travail d'écrivain, d'historien, de sociologue à celui de l'enfant qui relie des points pour faire apparaître une figure insoupçonnable au départ. Les points sont ici des scènes de vue, écrivez-vous. Le tracé qui passe par eux ne les a pas attendus pour exister, mais il conserve la possibilité de lui imprimer un devenir qui ne semblait pas contenir. Voilà pour la singularité de votre démarche, les particularités de votre travail. Un mot des sources, peut-être ?
C'est là où il faut 15 ans. C'est cette partie-là qui est la plus compliquée. Ce que j'ai essayé de faire dans la démarche, c'est de suivre sa vie au moment où elle se faisait. Parce que moi, je suis pas spécialiste des îles Marquises à la base, je suis pas anthropologue, je suis pas spécialiste de la Russie, je suis même pas spécialiste du 19e siècle. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me plonger dans les univers qu'il croisait au moment où il les croisait.
Alors,
donc,
allons-y. On commence par les îles Marquises. Comment il arrive là?
Mais même avant les îles Marquises, c'est-à-dire qu'il s'embarque sur un baleinier. Mmh. Parce que sinon, il y a aucune chance qu'il se retrouve dans le Pacifique. Donc, il s'embarque sur un baleinier, il faut arriver à comprendre ça. Dans les îles Marquises, qui se passe,
ça commence comme Moby Dick et puis ça.
Et
ça...
voilà, mais après ça dérive. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs c'est intéressant, mais comme comparaison, plus pour Taipi d'ailleurs que pour Moby. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les îles Marquises, ce qu'il va falloir arriver à comprendre, c'est qu'il arrive dans un monde qui d'abord n'a pas laissé de traces de lui-même à ce moment-là, et donc on est face à un vide. On sait à quel moment il arrive parce qu'on nous le décrit, et ensuite il faut recomposer tout ce qui a pu exister à ce moment-là. Et ce que j'ai essayé de faire, ce que je dis au début du bouquin, je me suis donné deux règles. Il faut que ça parle de Cabris, les sources, et pas recomposer sa vie à partir d'un monceau de sources générales dont je ferai une particularité, dont je tirerai de lui une incarnation, pas ça du tout. Et l'autre, c'est de pas relier des morceaux de sa vie indépendamment du fait qu'elle soit déjà reliée dans sa vie par des sources. Et du coup, pour ce qui est du moment île Marquise, ça c'est les joies de l'historien. Ce que j'ai trouvé j'ai sué quand même, passé beaucoup de temps pour arriver à comprendre comment ça devait marcher. Il faut recomposer des univers entiers, une tribu. Qu'est-ce qu'une tribu? Qu'est-ce qu'un chef de tribu? Qu'est-ce que le lien entre les navires baleiniers qui débarquent à Nukuiva et qu'est-ce que ça transforme sur l'économie de l'île? Alors déjà, pour en dire deux mots, ce que ça transforme, c'est que ça intensifie les guerres entre tribus sur l'île de Nukuiva. Et le fait que ça intensifie les guerres, donc ceux qui accueillent les étrangers blancs, sont en haut de la hiérarchie et donc se recomposent comme étant ceux qui ont le pouvoir sur l'île. Et donc Cabri, quand il arrive, il est tributaire de ça. 10 ans plus tôt, il aurait été mangé et il n'avait pas la possibilité de le faire. Donc il est tributaire de ça. Mais en même temps, c'est aussi ça qui détermine une partie de ce qu'il devient. Il devient chef de guerre à un moment où les guerres sont très importantes dans la... Bon,
il aurait pu rester extérieur à tout ça, mais il va se choisir sa tribu aussi.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un autre qui arrive en même moment, il y en a même deux autres qui sont présents en même moment, et on peut comparer sa trajectoire. Et du coup, les deux autres, il y en a un qui reste complètement extérieur, c'est un missionnaire, et donc il s'intègre pas, il est venu pour évangéliser les sauvages, comme il dit lui-même.
Alors ça, c'est le révérend Crook.
C'est le révérend Crook, exactement, et qui laisse un journal très précis sur ce moment-là, et qui donc décrit ce que fait Cabri, et comment est-ce qu'il est infréquentable, et ainsi de suite. Et il y en a un autre qui est encore plus intéressant, qui est Robarts, qui lui aussi s'est échappé d'un navire baleinier. Et qui s'intègre sans s'intégrer. C'est-à-dire qu'il reste à demi dans l'univers des Occidentaux, on va le dire comme ça très vite, et il rentre à demi dans l'univers des tribus Nukuiviennes. Et son mode d'entrée est celui au point de départ que prennent tous les étrangers. C'est-à-dire que, à force d'avoir des contacts avec des navires étrangers, les Nukuiviens avaient constitué, bon, plus largement dans le Pacifique, avaient constitué une place dans leur société pour les Blancs. Et donc, du coup, quand ils rentrent, ils sont un peu protégés par ce statut-là. Et ben, Robarts, lui, utilise ce statut-là en permanence pour changer de tribu, c'est-à-dire il se met sous la protection d'un chef qui va lui valoir ensuite de pouvoir circuler d'une tribu à l'autre, même quand elles sont ennemies jurées, et ça lui permet aussi de pas s'intégrer complètement, c'est-à-dire que il apprend la langue mais mal, il se marie il va s'installer à l'écart du village, et puis il se fait tatouer aussi des insignes au moment de son mariage, mais pas des signes marquisiens, mais des signes occidentaux. Et Cabri, lui, ce qu'on peut en comparant, on se rend compte qu'il s'intègre mais complètement, c'est-à-dire que lui, il change de langue, il oublie sa langue, il en prend une nouvelle, il se fait tatouer de la tête aux pieds, ce que n'ont pas fait les deux autres, lui aussi finira par se marier, par se soumettre à la coutume qui veut qu'on répudie sa femme quand on n'a pas eu d'enfant au bout de 2 ans. Donc en fait, il s'intègre complètement dans cette société, et surtout il devient un chef, un guerrier redouté qui se bat pour sa tribu, ce que ne font pas les autres.
Alors, il y a la situation, mais il y a quand même une affaire de choix, quoi, on imagine, en vous écoutant. C'est-à-dire que d'un côté, Robarts, il va se ménager une autre existence possible, il va négocier sa présence sur place autrement, tandis que Cabri, lui, va choisir de s'intégrer, en tout cas, il va s'intégrer. Qu'est-ce qui l'anime ?
Alors, je ne sais pas si on... Enfin, justement, je ne parle pas de choix. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Cabri, on peut le dire comme ça, même si... Il reconvertit une partie de ce qu'il a appris à faire, et ça lui vaut d'occuper une place particulière dans cette société. Et en l'occurrence, le fait d'avoir été sur ce baleinier, il a une vie avec des socialisations multiples. Hein, il a été sur les pontons à Portsmouth avant, bon, et il reste 3 ans sur un baleinier. Et du coup, un certain sens de l'action et une certaine gestuelle de l'assaut lui sont habituels, et ils trouvent un espace pour les reconvertir et les faire valoir au moment des guerres, qui sont des guerres abominables, hein. C'est-à-dire que précisément les deux autres, on va les appeler comme ça, deux autres blancs, un anglais, un écossais, eux font tout pour fuir les guerres, font tout, se planquent, ainsi de suite. Lui, pas du tout. D'abord, il a réussi à arriver avec un fusil, ce qui lui permet d'avoir un avantage sur le terrain, mais lui, il se bat, et il s'en prend aux deux autres blancs qui refusent de se battre pour leur tribu. Lui, il a incorporé d'abord le sens de l'honneur, mais aussi la gestuelle qui lui permet de s'en sortir dans ces guerres-là. Quand je dis qu'elles sont affreuses, c'est-à-dire que dans certaines circonstances, les prisonniers sont mangés ensuite. Donc il risque sa peau. C'est-à-dire que c'est une intégration pas à demi comme Robarts. Elle est pleine et entière.
Christophe Granger, notre invité pour Joseph Cabri ou les possibilités d'une vie, paru chez Anna Moza, prix Femina Essai. Et c'est tant mieux. Voilà l'histoire de cet homme, de cet inconnu, enfin très connu à l'époque, devenu inconnu pour nous dans notre histoire, qui va avoir une vie, négocier des vies assez improbables. Après les îles Marquises, il va quitter cette île et il va avoir une autre vie, hein, Joseph Cabri. 7 ans après son arrivée, un navire russe accoste là. Il fera d'abord office de traducteur. Quand le navire repart un jour de 1804, Cabri, il est là, il est à bord, il est endormi. Degré ou de force, les versions divergent. Au final, le résultat est le même. C'est une page de sa vie qui va se tourner. Quelles conséquences pour lui ? Il part vers la Russie.
Alors, il ne sait pas qu'il part vers la Russie d'abord. Il est emmené. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a quand même commencé à nouer des liens, puisque les savants russes et allemands de cette expédition restent 12 jours, pendant lesquels il sert de traducteur, et surtout Alain, d'ailleurs. Enfin, j'ai adoré ce passage, mais c'est un passage génial. Et où on le voit en train de prendre sur sa propre vie une forme de distance. C'est-à-dire que les savants l'obligent à parler non pas à quel moment vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez manger, ainsi de suite, mais à parler des gens parmi lesquels il s'est installé comme d'une culture générique, et il commence à mélanger des morceaux de sa vie avec un regard plus scientifique dessus. Ça, c'est très intéressant. En fait, ce qui se passe sur le navire, c'est que d'abord il se retrouve à être un marin comme il avait été avant, et surtout il découvre que les tatouages qu'il porte en permanence, évidemment, et notamment sur le visage, et le fait de mimer, puisqu'il parle pas le russe, de mimer des scènes de guerre et de sauvagerie de son île, lui valent l'attention des autres marins et l'attention des hommes de bord et des officiers, notamment un, Tolstoï, le grand-oncle de Léon Tolstoï. Et donc, il s'investit dans cette position-là, c'est-à-dire ça lui vaut de l'attention, donc il va s'investir dans ce rôle-là. Et il se retrouve d'abord, je passe les épisodes, il a eu d'autres opportunités qui sont intéressantes, il descend pas à Hawaï, mais il descend au Kamchatka et il va s'installer dans la société russe. Assez rapidement, il gagne Moscou et Saint-Pétersbourg. Et il se retrouve à s'intégrer dans la bonne société de ces deux capitales, enfin, on peut dire de ces deux grandes villes russes de l'époque.
Il va être présenté à l'empereur Alexandre, il va rester certains jours là-bas, il va être le protégé, et raconter aussi la Russie du tsar, de ses puissances au 19e. Il va avoir une autre vie là-bas, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi faire de sa vie un récit. Je vous propose d'écouter à propos de ce récit de l'altérité aussi, l'historien romain Bertrand, spécialisé domination coloniale européenne en Asie. Dans l'ombre des grands explorateurs, il y a une autre histoire qu'il raconte, lui, qu'il déploie, et notamment dans Qui a fait le tour de quoi, l'affaire Magellan, auteur également de L'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes. Pourquoi ? On l'écoute.
Ce serait en tout cas une histoire plus équitable, c'est-à-dire une histoire qui accorderait la même attention, qui ferait preuve du même intérêt pour l'histoire d'autres sociétés que pour l'histoire de l'Europe. Et ça veut dire très concrètement, dans le récit des grandes découvertes, plusieurs choses. Tout d'abord, s'apercevoir que dans l'ombre du nom des grands découvreurs, des personnages dont les noms scandent cette histoire, Colomb, Cortés, Pizarro, Magellan, eh bien, il y a tout un petit peuple de gens qui font très concrètement ces voyages d'exploration. Il y a des mousses, des calfas, il y a des équipages très cosmopolites, pour l'époque déjà. Et puis surtout, il y a ceux qu'on a longtemps appelés les intermédiaires indigènes. Voilà, c'est Sherpas, traducteurs, supplétifs, qui appartenaient aux sociétés auxquelles les Européens abordaient, et dont on se rend bien compte, d'une part, qu'ils ont joué un rôle beaucoup plus décisif que ce que l'on a longtemps cru, et d'autre part, qu'en fait, en les suivant, en s'intéressant à eux, autant qu'aux grands découvreurs européens, chrétiens, à peau blanche, eh bien, on s'aventure sur les chemins d'autres histoires. Et finalement, une histoire à parts égales des grandes découvertes, ça n'est pas nécessairement une autre histoire des grandes découvertes, mais c'est la porte entrouverte sur tout un monde d'autres histoires.
Voilà, c'est une autre histoire aussi à travers lui, à travers Joseph Cabri, et c'est un autre que lui. Comment ce français, notamment, est-il devenu un autre jusqu'à oublier sa propre langue quand il rentre en France, est-ce qu'il est encore français? Est-ce qu'il est de retour chez lui?
C'est un autre, clairement. Alors, c'est pas la même France. Déjà, il est parti au moment de la Révolution. Il arrive au moment de
la Restauration.
La Restauration, voilà. Il est dans un univers complètement différent, et lui-même a beaucoup changé. Donc, en réalité, ce que disait Romain Bertrand dans l'extrait qu'on a connu, il fait partie de ces personnages qui circulent à travers le monde et auxquels on fait pas forcément attention. Et donc, il a changé du tout au tout, et il doit changer à nouveau quand il revient en France, par la suite. En 1817, il revient en France, il est obligé de s'installer dans une nouvelle vie. Entre les deux, il a été professeur de natation, par exemple, à Saint-Pétersbourg, dans lequel il reconvertit aussi des savoir-faire qu'il avait acquis. On disait qu'il nageait très bien parce qu'il avait appris chez les Nukuiviens. Et quand il revient en France, il change à nouveau de vie complètement, d'abord parce qu'il regagne le monde de la cour, il est présenté au roi et ainsi de suite dans les beaux salons, mais assez rapidement parce qu'il rentre dans l'univers des foires, mais au départ c'est plutôt les théâtres de la capitale et peu à peu c'est le monde des foires, donc un cran en dessous, quand on se met du point de vue de la hiérarchie sociale des spectacles, et petit à petit il rentre dans un univers duquel il a à apprendre les règles, mais aussi à se trouver une position. C'est-à-dire que son mode de vie, et c'est passionnant ce que vous disiez tout à l'heure, il passe par le récit. C'est-à-dire le récit de sa vie devient ce par quoi il vit. C'est-à-dire il est obligé d'inventer une façon de raconter sa vie, à chaque fois différente en fonction de la hiérarchie des publics auxquels il a affaire, sinon c'est pas compréhensible. Et petit à petit, le récit de sa vie devient sa façon de continuer à vivre et d'avancer. Et quand je dis que c'est pas le même récit, on s'en rend bien compte. Dans La Bonne Société, on entend Montesquieu, comment peut-on être persan, et on entend Ulysse, on entend, voilà, des références. Quand il se retrouve dans les foires, sans aller jusqu'à la dernière qu'il traversera, celle de Valenciennes, mais beaucoup d'autres avant, puisqu'il se retrouve dans le calendrier forain, son récit met plus l'accent sur des éléments très populaires, on va dire, qui sont, il a été sauvé par une princesse, il allait être mangé vif, et il a perdu l'amour, et il y a un côté destin empêché, comme ça, qui devient le socle de son récit, et donc le socle de la vie qui continue à mener à travers eux.
Et qu'est-ce qu'il nous dit encore aujourd'hui, Joseph Cabri, ou les possibilités d'une vie? Il y a une leçon de vie derrière pour vous?
Alors après, ce que j'aimais bien, c'était l'idée que, et ça s'est avéré vrai, c'est vrai, beaucoup de gens qui l'ont lu me disent, ah, c'est ma vie, ça parle de ma vie, j'ai compris plein de trucs de ma vie, comme ça. Très égoïstement, je l'ai fait surtout pour la mienne, c'est-à-dire que moi j'ai compris beaucoup de choses de ma propre vie, que j'ai réinvesti dans le bouquin, c'est-à-dire comment on passe, ce qu'on n'a pas arrêté de dire là, comment on passe d'un monde à un autre, comment on change de langue, comment on change de registre. Moi je parlais pas comme je suis en train de parler quand je suis arrivé à faire mes études à la Sorbonne, c'est pas vrai, ni quand j'ai commencé à être enseignant. On trimballe des morceaux de son passé qu'on recycle en fonction des univers dans lesquels on a à s'installer. Et du coup, lui, en tout cas moi, il m'a permis de comprendre ces moments de bascule et ces moments où, ah bah tiens, là, j'étais pas uniquement, quelqu'un qui passe à la radio. Je trimballe des morceaux de socialisation antérieure comme lui, il l'a fait. On passe pas d'un monde dans un autre, on saute pas d'un univers dans un autre. Et tout ce qu'il y a entre les deux, tout ce qu'il y a de ces moments de changement de vie, sont extrêmement intéressants à comprendre, il me semble, pour nous. Et moi, j'ai très envie de ça. J'adorerais lire plein de Cabri faits par des gens différents et voir ce que les uns et les autres y mettent d'eux-mêmes et ce qu'ils découvrent d'eux-mêmes en travaillant sur sa vie à lui. Ouais.
Christophe Granger, est-ce que vous pensez que de telles histoires, de tels destins sont encore possibles aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs encore se perdre aussi dans ce monde pour mieux se retrouver?
Bah là, on est plutôt confiné et immobilisé plus que ce qu'il faudrait. Donc, ceci dit, ça fait beaucoup rêver. Ça, moi, ça m'a servi là en le relisant de sortir un peu des étapes d'immobilisme. Alors, est-ce que c'est encore possible? Le monde, précisément, c'est ce que je montre dans le bouquin. Les mondes sociaux se sont en partie uniformisés. Le monde lui-même s'est transformé en tant qu'échelle de vie. Globalement, on a des formes d'assignation sociale qui sont complètement différentes. Le fait de pouvoir passer d'un univers, il est à la cour et le lendemain, il est dans les foires avec la femme de 400 kilos ou la ménagerie du coin, c'est beaucoup plus difficile. Même si on connaît des parcours de progression, enfin de transformation sociale, d'ascension ou de déclassement, aussi poussé que ça, c'est quand même difficile à imaginer. Même si ça existe, hein, je ne doute pas que ça existe.
Mais voilà, merci beaucoup à vous, merci beaucoup Christophe Granger, merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table qui a programmé cette émission et qui l'a préparée. D'ailleurs Jean Bulot, c'était son choix, ce Joseph Cabri ou les possibilités d'une vie, édité chez Anna Moza, votre livre Christophe Granger qu'il avait repéré, lu, voire dévoré et qu'il l'a sûrement aussi appris beaucoup de lui-même, comme vous, à travers cette lecture et comme nous désormais. Merci d'être venu nous en parler, merci à Laura Dutèche-Pérez d'avoir préparé cette émission avec précision et minutie. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table Culture, aussi à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour Jean-François Piège, notre première invitée, à Anouk Delfino et à Madeleine Martineux qui ont préparé aussi cette émission avec nous. À la réalisation, c'est François Connac avec Jean Frédérix à la technique. Très bel après-midi à tous sur France Culture.